partie qui concernera plus particulièrement les variations eustatiques au cours de l'histoire de la Terre. Alors, on va essayer de décliner ce concept et ce fait de statisme hein, au travers trois situations particulières de la Terre, trois statuts particuliers de la Terre. Celui que l'on nomme communément l'ice house, c'est-à-dire, autrement dit, les périodes glaciaires qui ont affecté la Terre. Un autre état est celui du green house, c'est-à-dire de la serre, où la Terre était beaucoup plus chaude qu'à l'heure actuelle. Et puis un état extrême, qualifié par certains collègues nord-américains de hot house, c'est-à-dire de situations chaudes extrêmes, en particulier au cours du Crétacé supérieur. Alors, pour résumer l'histoire de la Terre depuis 3,5 milliards d'années jusqu'à l'actuel, cette histoire est ponctuée par une série d'épisodes glaciaires, épisodes glaciaires à l'échelle globale, en particulier au cours donc de l'Archéen et du Néo-Protérozoïque, épisodes qui ont conduit à ce que l'on appelle les événements boules de neige, snowballs, c'est-à-dire qui ont conduit à un englacement que certains prétendent total ou subtotal de la Terre, qui était recouverte de glace, donc des situations extrêmes, on reviendra sur ces épisodes. Et puis au cours des temps phanérozoïques, un certain nombre d'épisodes qui sont communément admis, hein, en particulier avec cette bande large qui concerne l'épisode permo-carbonifère, et puis la dernière bande bleue, qui est l'épisode cénozoïque et quaternaire, dans lequel nous sommes actuellement. Donc vous voyez, ces épisodes se regroupent selon un certain nombre de périodes. Ici, les documents stratigraphiques sont très épars, hein, très dispersés, et très partiels, fragmentaires. Ici, la documentation est beaucoup plus conséquente. Donc, nous attarderons sur cet épisode et verrons les épisodes suivants. Alors, qu'en est-il du comportement du niveau de la mer pendant ces périodes de glaciaire, ici à la fin du néo-protérozoïque? Alors, nous observons une coupe dans le nord de la Namibie, en Afrique, coupe qui montre deux niveaux stratigraphiques. Un premier très hétérogène, hein, qui montre des blocs et des graviers et des galets, donc du matériel très hétérométrique, de nature pétrographique différentes, hein, emballées dans une matrice plus ou moins stratifiée, plutôt mal stratifiée. Donc, ces dépôts sont caractéristiques de ce qu'on appelle des tillites glaciaires, et plus particulièrement des roches qu'on appelle des dropstones, qui sont donc des lâchers de glaciers qui flottent au-dessus. Hein, par leur fonte, ces éléments transportés dans la glace sont lâchés et tombent sur le fond, d'où ce mélange hétérométrique et pétrographique dans les roches. Donc des épisodes glaciaires, hein, de bas niveau, surmontés par des formations carbonatées qu'on appelle communément des caps carbonates. Et ces formations carbonatées sont systématiques au toit de ces dépôts glaciaires. Formations carbonatées qui sont des formations marginaux littorales, qui montrent des lamines tidales, des stromatolites et des choses peu profondes. Alors, si on dézoome en quelque sorte et on replace cette observation des tillites surmontées par les caps d'holostone, caps carbonates, qui sont à cette échelle, ensuite la section vers le haut est composée d'argile, avec certains passés turbiditiques, qui montrent un approfondissement. Et puis ensuite, le secteur est progressivement comblé par des dépôts de moins en moins profonds. Donc, dans cet exemple néoprotéozoïque associé à ces événements glaciaires, effectivement, on a des variations significatives du niveau marin, hein, puisque ici, on est grosso modo à bathymétrie zéro, tandis qu'ici, quelques dizaines de mètres au-dessus, avec des bathymétries beaucoup plus conséquentes, qui peuvent être de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. D'accord? Donc, les amplitudes des variations bathymétriques sont tout à fait compatibles avec des phases de glaciation et de déglaciation, hein, qui engagent des volumes d'eau de plusieurs millions de kilomètres cubes, donc des variations, des amplitudes de variation du niveau de la mer de plusieurs dizaines de mètres. Alors donc voici un extrait, hein. On peut corréler l'autre critère de variation statique sera la corrélabilité, hein, le synchronisme avec d'autres coupes situées dans d'autres parties du monde. Donc ici, nous observions cet épisode de Tillit, hein, en Namibie, au néoprotéozoïque supérieur, vers 630 millions d'années. Et vous voyez qu'on peut le corréler. Alors, il n'y a pas de fossiles, hein, vous allez me dire. On peut le corréler avec des épisodes donc en Australie ou au Canada. D'accord. Donc, ils sont dans la même situation stratigraphique. Et pour chacune des coupes, on a une évolution donc des bathymétries qui est similaire, d'accord, avec un ennoyage, d'abord les caps carbonates, puis un ennoyage conséquent au-dessus de ceci. Alors, on est capable on se permet de corréler ces coupes, non pas sur la biostratigraphie, parce que les fossiles AT calcaires n'étaient pas là encore, mais sur les signatures géochimiques, en particulier les variations du delta C13 dans les carbonates, qui montrent, vous voyez, systématiquement, sous l'épisode glaciaire, qui montrent des valeurs très fortes, très positives, hein, plus 5, et une dérive vers des valeurs négatives qui sont juste immédiatement sous les dépôts glaciaires. D'accord? Donc, hein, quel que soit l'endroit, cette signature géochimique, hein, qui enregistre en quelque sorte un état isotopique de l'océan, hein, qui est une signature océanique, globale, montre la même dérive sur des sections situées sur des endroits différents. Donc, qui permet, a priori, de bien démontrer le synchronisme de ces phases sur les différents. Donc, ici, vous voyez que les variations locales du niveau marin relatif sont associées à des variations eustatiques, c'est-à-dire des variations du niveau marin absolu, des variations à l'échelle globale. Et que ces variations sont associées effectivement à des variations de stockage de l'eau sous forme de glace ou non. Alors, pour vous montrer que cet englacement était particulièrement conséquent, on a trouvé donc ces formations glaciaires, ces tillites, dans des paléolatitudes, hein, qui sont fournies par les données paléomagnétiques, dans des paléolatitudes qui sont, vous voyez ici en rouge, hein, pour l'Australie ou pour le nord du Canada, qui sont dans des très très basses latitudes, hein, ce qui a conduit donc certains auteurs à dire que la Terre était à un moment donné de son histoire, enfin à plusieurs moments donné ce moment de son histoire, était totalement englacé. D'accord. Alors on reviendra éventuellement sur les causes de ces variations climatiques, donc de ces mises en glace de l'eau, donc de ces variations du niveau statique. En particulier, en s'aidant de cette donnée, d'accord, qui est un enrichissement qui précède donc l'épisode glaciaire, qui est un enrichissement delta C13 des roches, hein, qui précipitent à partir des eaux marines. Donc cet enrichissement à des valeurs plus 5 montre que beaucoup de carbone léger étaient métabolisés par des organismes et stockés éventuellement sous forme de sédiments organiques dans les océans. Donc cet excès de production, préservation de matière organique dans les océans a pu conduire à un soutirage conséquent du CO2 atmosphérique, donc conduire, au moins déclencher, des variations de la température et le développement de calottes glaciaires. Plus les calottes glaciaires se développent, plus l'albédo est fort. Donc il y a un effet d'auto-renforcement qui a pu conduire, selon certains modèles, jusqu'à l'englacement total de la Terre. D'accord ? Donc comment sortir de cette situation extrême ? Comment mettre son nez en dehors de la glace ? Alors il y a deux scénarios possibles. Avant, je vais, continuer sur les autres hypothèses qui sont en cours de développement pour expliquer la mise en glace. La première, c'est la fragmentation continentale du continent qu'on appelait le continent Rodinia. D'accord ? Où vous voyez, avant la première glaciation finie protérozoïque, d'accord, où les différents continents sont assemblés, hein, une espèce de fer à cheval, et puis quelques millions d'années après, précédant la glaciation, ces continents sont dissociés. Donc le fait de dissocier les continents va augmenter l'altération continentale par des effets d'augmentation du cycle hydrologique et de ce qu'on appelle du runoff ou du drainage des continents. D'accord ? Donc si le drainage des continents est renforcé, l'altération continentale est renforcée. Et vous savez que l'altération des silicates est un processus qui consomme du dioxyde de carbone. D'accord. Donc, qui peut conduire, c'est un deuxième mécanisme qui peut conduire à la chute de la pression partielle de CO2, donc au refroidissement général de la Terre. D'accord. Donc, ces modèles ont été testés et sont a priori, au point de vue temps, ceci est compatible, et au point de vue flux et bilan, ceci est compatible aussi. Un autre processus engagé, possible, et l'altération des provinces basaltiques. Parce que, conjointement à cette fragmentation, se mettent en place de grandes provinces magmatiques, d'accord, qui sont exposées à l'air libre, hein, des provinces similaires à celles que vous connaissez en Sibérie ou celles du Dekkan en Inde. D'accord. Et les basaltes sont composés de matériel basique, dont l'altération est un processus particulièrement efficace pour soutirer du CO2. D'accord, hein? L'olivine, théoriquement, vous consommez 4 mol de CO2, et lorsque vous reprécipitez le bicarbonate engendré par cette hydrolyse, vous n'en relarguez qu'une mol de CO2. Donc, à chaque fois que vous altérez de l'olivine, vous consommez 3 mol de CO2. D'accord. Donc, c'est tout. Bon, pour l'instant, les trois mécanismes possibles sont auscultés et a priori valables, hein, celui de l'excès d'enfouissement de matière organique ou celui de l'excès de l'altération, alors soit simplement par augmentation du ruissellement dû à la fragmentation des continents, soit par altération spécifique de roches basiques mise en place au moment de l'ouverture. D'accord. Voilà, donc pour ces périodes de glace, on n'a pas de souci pour reconnaître des variations eustatiques, donc à l'échelle, par définition, à l'échelle globale, tant par leur amplitude que par leur corrélabilité. Alors, il existe au cours des temps phanérozoïques aussi des épisodes glaciaires relativement longs, hein, en particulier à cheval sur le, le Permien et le Carbonifère, ou depuis l'Oligocène pour la période actuelle, et puis des interludes ou des épisodes froids, hein, le plus connu peut-être étant celui de la fin de l'Ordovicien, avec une calotte centrée sur le Sahara, et puis d'autres plus discrets et moins connus au cours des temps mésozoïques, hein, comme le Calovo-Oxfordien dont on parlera, ou le Valanginien, ou encore plus tard. Donc, regardons encore un épisode de glace, hein, au travers l'exemple du Carbonifère, ou sur cette vue paléogéographique, hein, ce sont les documents de Scotties, on voit l'extension à partir des zones donc australes de la calotte glaciaire, hein, dont l'extension est effective jusque en Arabie ou dans le sud de l'Afrique et sud de l'Amérique. D'accord ? Donc pendant le permo-carbonifère, l'essentiel des variations des niveaux marins relatifs sera associé à ces chutes et à ces montées eustatiques, hein, et ça se traduit sur le terrain par ici en Algérie, par des séries alternantes ici de plateformes soumises à des tempêtes qui se déposent sur quelques dizaines de mètres d'eau et qui sont entaillées ou incisées, voyez, largement et remplies ensuite par des dépôts continentaux. Donc ceci implique effectivement des chutes eustatiques rapides et dont l'ampleur avoisine plusieurs dizaines de mètres. D'accord ? On est normalement, en connaissant la profondeur de dépôt au toit, on est capable de calculer donc l'amplitude de la chute. Voilà, le dernier épisode glaciaire, quand on se rapproche des temps présents, est celui qui s'est développé au cours du Mésozoïque, avec ici en particulier au Miocène moyen, hein, c'est ce qu'on appelle le Mid-Miocene Event, hein, le refroidissement, c'est là où les faunes froides ont envahi l'Europe de l'Ouest, par exemple. Se développe donc une calotte glaciaire sur l'Antarctique, calotte glaciaire qui deviendra permanente. Donc ça se traduit également par des variations de température des eaux. Hein, ici, vous lisez de droite à gauche pour aller de la limite Crétacé-Tertiaire à l'actuelle. Sur la courbe du bas, ce sont les températures, d'accord, indiquées par le delta O18 des foraminifères benthiques, donc des températures des eaux de fond. Et sur l'évolution de la courbe supérieure, il s'agit des températures, donc des eaux de surface, obtenu grâce au delta O18 des coquilles de foraminifères planctoniques. Donc vous voyez en particulier, hein, cette chute qui affecte en particulier les foraminifères benthiques, hein, donc les eaux de fond, et également les parties superficielles, donc qui est bien centrée sur le Miocène moyen. Donc cette mise en glace s'accompagne d'une chute des températures, à la fois dans les domaines superficiels et profonds, et puis au point de vue eustatique, point de vue variation du niveau marin relatif, le Miocène moyen est quelque part au toit du Séravalien, hein, donc on s'est enregistré, c'est cette chute-là qui est ici, d'accord, donc qui est de plusieurs dizaines de mètres selon la charte de Aquetal. Hein, régionalement, si vous voulez, ça se traduit, si vous allez dans le sud de la France, en Camargue, vous avez jusqu'au Urdigalien, Languien, Séravalien, des faciès marins, et ensuite les faciès supérieurs, hein, qu'on appelle Vindélicien et autres, sont des faciès continentaux avec des faunes continentales froides qui viennent de Scandinavie et autres. Hein. Donc on a bien la répercussion de cet événement, tant au point de vue sédimentaire que paléo-température ou que migration des faunes. Donc là, on n'a pas de souci pour faire varier le niveau de la mer en association donc avec le développement de ces épisodes glaciaires. Bon, si je regarde ce que j'ai fait, si on s'intéresse maintenant à ce qu'on appelle communément le greenhouse status, c'est-à-dire aux périodes chaudes de l'histoire de la Terre, hein, que l'on connaît par exemple pour les temps mésozoïques, hein, Triage, Jurassique, Crétacé, c'est classique, eh bien on se rend compte que pendant cette période chaude, il y a un certain nombre d'épisodes et d'anomalies sédimentaires et biologiques qui laissent à penser qu'on a des développements d'épisodes froids. Alors comment est-ce que cela se traduit? Toujours par des données isotopiques, qui sont cette fois-ci des températures, ici ce sont les températures, qui sont des températures d'eau superficielle sous nos latitudes, hein, dans les séries du bassin de Paris et de l'Est de la France, qui sont des températures déduites de la composition en delta O18 de dents de requins qui vivent dans la tranche superficielle et qui enregistrent la paléotempérature de la tranche d'eau dans laquelle ils vivent. Et vous voyez, par exemple, au cours du Jurassique moyen, Jurassique supérieur, hein, en particulier à la fin du Calovien, vous voyez que la gamme de température donnée entre 20 et 25 degrés, hein, pour des eaux à des latitudes d'environ 35-36 degrés nord, hein, cette gamme de 20-25 va chuter dans une gamme de 18-20 degrés. Donc on a, pour une même latitude, en un million d'années, grosso modo, vous voyez décroître les températures des eaux superficielles de plusieurs degrés. Donc c'est assez significatif. Conjointement, en fond est reporté des noms de familles d'ammonites que vous connaissez peut-être. Alors en jaune, ce sont les ammonites ou les familles d'ammonites à affinité mésogéenne ou tétisienne du sud, et en bleu, ce sont les ammonites à affinité boréale. Alors, peut-être que les plus connues sont celles que vous rencontrez dans les coupes en Bourgogne ou dans le bassin de Paris ou même dans le sud-est de la France, hein. Ce sont ce qu'on appelle les Quenchetoceras, hein, ou les Cardioceras, d'accord, qui sont des formes aplaties, oxycones, platycones, qui sont d'origine boréale, hein, de manière caractéristique, et qui montrent, si on peut les suivre, vous voyez, au cours du Bâtonien, ils sont cantonnés aux provinces nord, c'est-à-dire Écosse, Groenland. Au cours du Calovien, elles viennent dans le au cours du Calovien, elles viennent dans le bassin de Paris, d'accord. Et puis au passage Calovien-Oxfordien, vous allez les retrouver dans le bassin du sud-est de la France, et puis à l'Oxfordien inférieur, au Maroc ou enfin au Portugal, en Algarve, au Maroc et en Algérie, d'accord. Donc elles ont migré depuis le Bâtonien à l'Oxfordien, du à peu près 20 degrés de latitude. D'accord. Puis ensuite, elles repartent de manière assez brutale vers le nord au cours de l'Oxfordien. Donc, si vous voulez, cette migration de faune, cette biogéographie, hein, cette migration de faune froide vers les domaines sud, est exactement corrélée avec les refroidissements des eaux indiqués par les isotopes de l'oxygène sur les phosphates. Donc, a priori, c'est bien les variations de température qui guident la migration. D'accord ? C'est une des premières fois où on peut caler de manière aussi précise ces deux processus. Donc, il y a eu, effectivement, un sérieux coup de froid. Vous voyez qu'il a duré à peu près, 1 ou 2 millions d'années, pour vous donner un ordre de grandeur. Au passage, donc, Jurassique moyen, Jurassique supérieur, pour simplifier. Voilà, donc ça c'est le chemin retracé pour montrer que cet événement est global et non pas local, enfin, ou régional. On a regardé ces distributions de faune en différents points du globe, en particulier dans l'hémisphère nord. Donc ça c'est notre cas ouest européen, hein, avec la migration jusqu'en Afrique du Nord. On a une migration similaire dans le bassin intérieur nord-américain, et puis également dans la province au nord du Japon ou vers le fleuve Amour. D'accord. Donc on peut même prétendre à reconstituer des paléo-isothermes puisque le calage entre migration et température est effectué dans cette zone. Voilà. Donc le deuxième aspect, c'est l'aspect sédimentaire qui est associé à cet événement. Donc ici, nous sommes retournés sur la plateforme arabe, où vous avez un ensemble compact de calcaire de l'homitique hein, qui est du calovien inférieur et qui est surmonté directement par des assises du Jurassique sommital. Donc qui implique, donc ici nous avons un grand hiatus sédimentaire, une grande lacune qui est associée à un épisode, comme on l'a vu sur les diapositives précédentes, qui était associée à un épisode donc d'émersion. Donc la plateforme a été, à un moment de son histoire, le bord de la plateforme a été exondé et érodé. D'accord. Et au passage, en particulier au passage Calovo-Oxfordien. Donc là aussi, c'est la compilation à l'échelle globale de ces séries sédimentaires qui va nous permettre de démontrer que c'est un événement à l'échelle planétaire. Donc ceci représente des coupes à travers différents endroits du monde. Donc ici, ça va être l'Europe. Ici, il faut que je me torde le nez. Ici, c'est l'Amérique. Et puis ici, Tibet, Asie. D'accord. Et pour chacune des colonnes stratigraphiques de ces sites, on a enregistré la dernière présence de faune d'ammonite hein, qui témoigne de conditions marines. La dernière présence est la première présence. Et puis entre ces deux présences se développent soit des karsts, soit des hiatus sédimentaires dus à l'émersion, ou soit encore des prismes littoraux. Donc tous différents caractères ou témoignages d'émersion ou de régression. Et vous voyez qu'on arrive à un dénominateur commun, qui est cette ligne, hein, grosso modo, ou celle-ci plus exactement. D'accord. Hein, quelque part dans le calovien supérieur, où en fait toutes les coupes de plateformes dans le monde à un moment donné étaient exposées à l'air libre. Alors la mise à l'air libre et le réennoyage ne va pas être synchrone, d'accord ? Ça va être plus ou moins anticipé ou plus ou moins retardé selon les secteurs, puisque le statisme n'est pas a priori le seul facteur qui contrôle l'émersion ou l'ennoyage des plateformes, d'accord ? Puisqu'on a toujours localement des effets géodynamiques ou des effets de flux sédimentaires qui vont accélérer l'ennoyage ou la mise à l'air libre ou retarder l'ennoyage et la mise à l'air libre, selon qu'ils vont dans le même sens ou dans le sens opposé. D'accord. C'est pour ça qu'on enregistre un diachronisme dans la phase de chute et la phase de remontée, mais à un moment commun, on a une phase de chute pour toutes les coupes ici. D'accord. Et cette période, le calovien supérieur, correspond au refroidissement et à l'arrivée des faunes. Donc on a une coïncidence dans le temps de témoignages concernant la biogéographie, concernant les températures ou concernant les variations du niveau marin relatif qui montrent qu'il y a eu un épisode de chute du niveau marin global et associé à un coup de froid. Donc à partir de là, on suppose l'existence de calottes glaciaires et de mise en glace. Un des soucis pour les temps jurassiques, par exemple, c'est le fait qu'il n'y ait pas de continent au pôle. D'accord. Donc, a priori, il est difficile de faire croître une calotte dans ces conditions, donc de stocker de l'eau sous forme de glace, d'immobiliser de l'eau sous forme de glace, donc de faire baisser le niveau marin relatif. Sachant que pour cet épisode, a priori, on estime qu'au moins une chute, on estime à 40 voire 60 mètres la chute du niveau marin. Donc ce qui est conséquent, hein, ce qui implique une dizaine de millions de kilomètres cubes d'eau, donc le développement de calottes glaciaires. Alors pour l'instant, par exemple, une des solutions pour sortir de ce conflit hein, est de faire croître des calottes glaciaires sur des zones montagneuses qui sont situées à cette époque dans des latitudes relativement élevées, au-delà des cercles polaires, en particulier en Sibérie. Orientale. Donc on en est là, par exemple. La prochaine étape consiste à partir de ce schéma paléogéographique et des données sur les températures des eaux que l'on a, c'est de faire de faire une simulation à partir de modèles climatiques généraux pour voir si on est capable de faire neiger dans ces zones, en connaissant, donc en reconstituant les différentes cellules de Hadley et autres, pour valider cette hypothèse. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a également conduit, pendant cette période chaude du Mésozoïque, à un interlude ou un épisode froid, hein, qui a duré, bon an, mal an, environ 2 millions d'années, hein, qui est particulièrement sensible dans les moyennes latitudes. Donc ici, sont reportés au travers la colonne stratigraphique, hein, du Calovien et Oxfordien, la teneur en carbone organique de sédiments. Alors il y a plusieurs sites, en particulier le sud de l'Angleterre, hein, dans les Oxford Clay, dans l'Atlantique central, ou dans l'est du bassin de Paris, ou dans le sud-est de la France. Et donc vous voyez qu'il y a, à ce moment du Calovien moyen, un épisode où se déposent, où sont préservées des couches riches en matière organique, hein, puisque on considère qu'une roche est enrichie en matière organique à partir du moment où son contenu en matière organique excède 1%. Donc vous voyez qu'on est largement au-delà, et on monte jusqu'à des valeurs de 13% de carbone organique total, ce qui est assez conséquent. Et ce qui est intéressant sur ce diagramme, c'est de montrer que le refroidissement, ici indiqué par les valeurs isotopiques, qui sont traduites en température, est immédiatement postérieur au dépôt des couches riches en matière organique. Donc à partir de cette corrélation temporelle, on peut proposer le scénario suivant, c'est-à-dire que l'excès de stockage de matière organique, de carbone organique dans les sédiments au Calovien moyen va provoquer donc le soutirage du CO2 atmosphérique, donc conduire également à un refroidissement. C'est le même type de scénario que le premier énoncé pour les calottes néoprotérozoïques. Puisque vous voyez, hein, à partir de là, on a une décroissance et on rentre dans la phase froide. Ah, vous pouvez me dire que c'est une simple coïncidence et qu'un processus extérieur a conduit à deux effets conjoints et similaires, qui est un, si vous refroidissez les eaux, vous augmentez la teneur en oxygène, donc vous augmentez l'altération et vous diminuez la préservation de matière organique, et puis vous refroidissez effectivement vos eaux, d'accord. La réponse ou la contrepartie est que cette relation excès de matière organique, refroidissement immédiatement postérieur, et on l'a vu déjà à propos du néoprotérozoïque, est quasi systématique, hein, dans l'enregistrement stratigraphique pour des épisodes similaires au cours du Mésozoïque. Hein. Je me réfère au Toarcien, je me réfère au Cénomanien, Turonien, ou encore au Miocène. À chaque fois qu'on a un épisode de dépôt de roches enrichies en matière organique, c'est suivi par un refroidissement. Donc, si vous voulez, c'est trop systématique pour que ce soit indépendant. Donc, désormais, nous allons considérer la dernière phase, celle du hot house, vous le traduirez comme vous l'entendrez, en particulier au cours du Crétacé supérieur. Alors, le Crétacé supérieur, et en particulier les deux étages cénomaniens et turoniens, sont considérés comme l'épisode néozoïque le plus chaud de l'histoire de la Terre. Hein. C'est un épisode extrême, et donc vous voyez a priori la Terre est débarrassée de toute calotte glaciaire, et la transgression affecte toutes les bordures de boucliers, hein, et aussi bien sur la plateforme russe que sur le bouclier nord-canadien, que le bouclier africain ou sud-américain. Hein, c'est la fameuse transgression du Crétacé supérieur qui est visible à l'échelle de la France, hein, puisque il s'agit des assises en verre clair qui débordent largement sur le Crétacé inférieur en verre sombre et sur les assises jurassiques, voire sur le socle ici directement. Vous ferez un exercice spécifique cet après-midi sur la cartographie de cette transgression, en quelque sorte. Donc nous allons essayer de montrer comment on arrive à la globalité et à l'idée statique de cette transgression, en observant donc des coupes dans l'ouest de la France, sur la marge nord-américaine, au Sahara et sur la plateforme sibérienne. Hein? Si je vous rappelle que si nous voulons démontrer que cette transgression est d'origine eustatique, il faut prouver son synchronisme et sa globalité. Hein? C'est vraiment, puisque le principe est le suivant, le principe assez simple, l'eustatisme n'est qu'une fonction du temps. En revanche, les flux sédimentaires et la tectonique, hein, la subsidence en particulier, est une fonction du temps et de l'espace. D'accord ? Donc en se plaçant à l'échelle globale, on s'affranchit du paramètre espace. Donc on est bien dans la gamme de variations uniquement au cours du temps temporel. Alors voici une coupe classique que l'on peut reconstituer à partir d'une notice de carte géologique au 50 millième, hein, sur un secteur. Vous ferez ça cet après-midi. Où on voit ici un empilement donc de faciès argileux, de faciès sableux littoraux, à nouveau un faciès argileux avec des fossiles marins. Donc régression, transgression, régression, transgression, régression, transgression, régression et transgression pour la craie. Vous voyez aussi passer des faciès verticalement, des faciès à dominante terrigène du Crétacé inférieur, argileux, sableux, à des faciès carbonatés et crayeux du Crétacé supérieur. D'accord ? Ceci étant un processus également assez général. Donc, en étudiant donc ces variations local du niveau marin relatif, hein, on va pointer des maximums d'inondation ou au contraire des maximums de chute ou des limites de séquence. Et a priori, les auteurs ont été capables de recaler leurs différents, de dénombrer et de recaler dans l'espace et dans le temps ces différentes inondations et ces différentes chutes avec les différentes inondations et les différentes chutes qui étaient fournies par la charte d'Exxon. Avec deux nuances. D'une part, régionalement, ces auteurs ont une séquence supplémentaire par rapport à celle qui est prédite. D'accord ? C'est pour ça qu'ils ont indiqué en pointillé un aller-retour supplémentaire par rapport à la charte initiale qui est en trait continu. Et puis, ils n'ont pas pu hiérarchiser ces différentes inondations, hein, donc ils les ont corrélées une par une. Mais on voit que sur la charte, ce qui est indiqué, c'est le maximum est indiqué au Turonien inférieur. D'accord. Donc le Turonien inférieur, c'est, j'ai dû caler ça, c'est quelque part par là. D'accord. Donc c'est dans les faciès crayeux. D'accord. Donc ça, c'est à partir d'une section, j'insiste, hein, à partir d'une section 1D, vous êtes capable de dénombrer les cycles, d'accord, mais vous n'êtes pas réellement capable de proposer une hiérarchie une hiérarchie statique. D'accord, vous êtes capable de dire l'inondation, cette inondation est plus forte que celle-ci ou moins forte, c'est-à-dire il y a plus, vous êtes capable de lire la hauteur d'eau. Okay. Donc là, j'avais plus d'eau qu'ici. D'accord ? Et ce que vous observez ou ce que vous êtes capable d'analyser, c'est une profondeur d'eau et une variation du niveau marin relatif. En fait, pour avoir accès à la composante eustatique, il faut enlever la subsidence et le flux sédimentaire. D'accord ? C'est l'exercice que vous ferez dans 15 jours en particulier. D'accord ? Comment on peut passer d'une variation du niveau marin relatif à une variation eustatique. D'accord. Enfin, eustatique du niveau marin, du niveau d'eau. Okay. Donc là, simplement, il faudrait, ce que vous voyez, vous, c'est le résultat de la somme de ces, de la subsidence du flux sédimentaire et des variations du niveau d'eau. D'accord. Mais vous ne voyez pas directement le statisme. Okay. Bon, toujours est-il que si on est capable de dénombrer le même nombre de séquences ici par rapport à la charte, c'est qu'a priori, les séquences au premier ordre sont contrôlées par le statisme. Oui. Si on va sur la marge nord-américaine, donc là, les auteurs ont fait le travail de décompaction, c'est-à-dire on enlève le flux sédimentaire, on fait le travail de calcul de subsidence, donc on a enlevé au signal le signal tectonique, donc on était capable de reconstruire effectivement un signal eustatique proprement dit. Et vous voyez, donc ici, cénomanien, turonien et le reste du Crétacé supérieur, vous voyez ici que le maximum, a priori, eustatique, il n'est pas du tout dans le turonien, comme l'indique la charte. Ici, c'est la charte de Aketal. Hein. Il n'est pas du tout dans le turonien, mais il est bien dans le cénomanien. D'accord. Autre information, vous voyez l'amplitude indiquée, des variations statiques indiquées dans la charte d'Exxon, c'est de l'ordre de, vous voyez, 250 mètres, 200, donc de 80 à 100 mètres. D'accord. 80 à 100 mètres, ça implique 30 à 40 millions de mètres cubes, de kilomètres cubes d'eau. Il faut savoir, la dernière, le maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, c'était moins, aux dernières mesures, c'était moins 130 mètres. D'accord. Donc ça impliquait la mobilisation de 52 millions de kilomètres cubes d'eau sous forme de glace. Donc ces amplitudes sont considérables, trop considérables certainement. Et ici, elles sont, sur le travail précis effectué sur la marge nord-américaine, elles sont, vous voyez, de l'ordre de quelques dizaines de mètres. D'accord. Donc c'est plus raisonnable. Donc là, on a déjà une légère dissonance par rapport à ce qu'indique la charte sur le maximum de la variation statique. Si on se place sur la plateforme russe, donc ça c'est l'analyse des cycles sédimentaires qui ont été traduits en termes de bathymétrie et pas en termes de variation statique, on constate que le maximum, cette fois-ci, est dans le cénomanien, à la fin du cénomanien supérieur, mais pas dans le turonien. Donc il peut être effectivement synchrone par rapport à la marge nord-américaine, mais pas par rapport à la charte statique. Si on va dans le sud du Sahara algérien, dans le massif du Tinrer, on voit donc transgresser, hein, ce sont les assises bleues, grises et vertes, les horizons du Crétacé supérieur, cénomanien, turonien, on voit transgresser ces horizons sur le socle paléozoïque, hein, qui est ici un socle silurien et houillé. D'accord. Et si on réalise une coupe, hein, cartographique, voici cette géométrie, hein, vous voyez le socle ici représenté, cette discordance. Donc dans la partie nord, ce sont des faciès marginaux littoraux, hein, qui enlapent, c'est la rétrogradation en quelque sorte de la plaine côtière. Et puis, vous voyez qu'à un moment donné, ici, on a encore des faciès marginaux littoraux, des argiles à gypse. Et puis là, on a une barre calcaire qui vient rapidement transgresser et même surmonter les environnements continentaux. Et cette barre calcaire, la base de cette barre calcaire, hein, la Hamada du Tinrer, a été datée par des ammonites de la base du cénomanien supérieur. Donc vous voyez que dans le détail, on va revenir à ce point. Donc dans le détail, dans la généralité, on dénombre le même nombre de séquences, d'accord, et dans la même période de temps. Donc on peut supposer effectivement que ces séquences sont d'origine eustatique. Dans le détail, on a des soucis pour la hiérarchie des séquences les unes par rapport aux autres. Sachant qu'a priori, le maximum de transgression est turonien pour certains endroits et cénomanien pour d'autres endroits. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un vrai un problème ou un faux problème? Les deux. Un faux problème dans la mesure où, en général, on n'est pas capable d'avoir, selon, quand on considère différents continents, d'avoir des échelles biostratigraphiques identiques. Parce que les faunes ont des provinces de prédilection. Donc, les faunes qui servent, les foraminifères planctoniques, les ammonites, qui servent à établir des échelles biochronologiques sur la province atlantique ne sont pas les mêmes que celles du Sahara ou de la plateforme russe. Donc, on a parfois, selon les moments, on a une certaine difficulté pour corréler les échelles entre elles. D'accord ? Donc, à partir du moment où on a des difficultés pour corréler les échelles entre elles, on ne va pas pouvoir faire un calage précis dans le temps et une comparaison précise. Voilà, donc ça, c'est un problème technique. Ce n'est pas un problème de fond. Mais il y a aussi un problème certainement fondamental dans la mesure où, toujours, localement, régionalement, on a une influence, la marge continentale nord-américaine subside, la plateforme russe subside, il y a un flux sédimentaire, donc cette subsidence et ce flux sédimentaire qui est régional va là aussi moduler en quelque sorte le signal eustatique initial. D'accord ? Donc, il va introduire un léger décalage dans le temps du maximum. Et ce maximum va varier selon les endroits. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait varier qu'est-ce qui fait transgresser, en quelque sorte, cette mer de manière eustatique pendant le Crétacé, par exemple. Alors, là, on a continué à échantillonner et à mesurer les valeurs du delta O18 dans des dents de requins, cette fois-ci au cours du Crétacé, puisqu'ici vous êtes à la limite jurassique Crétacé et là à la limite Crétacé tertiaire. Ceci est effectué dans le bassin du sud-est de la France, et vous voyez donc les différents points qui sont enveloppés en quelque sorte par la courbe grise. Donc, ce qui apparaît clairement, bon, il y a des incertitudes concernant les âges et concernant les mesures isotopiques proprement dites, ou la conversion en température. Donc, vous voyez effectivement des températures, si on prend une moyenne, des températures moyennes des surfaces des eaux de 25 degrés. Donc, c'est considérable. D'accord ? Et le maximum correspond bien effectivement au maximum eustatique de la limite cénomanien-turonien. D'accord ? Donc, plus on a à disposition des valeurs sur les paléotempératures des eaux, plus on se rend compte qu'il y a une corrélation assez, assez précise, d'accord, et assez superposée, il n'y a pas de décalage, entre température et variation du niveau marin relatif. Donc, ça, c'est un argument très, très fort pour. C'est un plaidoyer pour le contrôle glacio-statique des séquences, même pendant les épisodes dits greenhouse de la Terre. Alors, classiquement, auparavant, on admettait que cette transgression du Crétacé supérieur, enfin du début du Crétacé supérieur, était associée à une accélération de la vitesse d'expansion, en particulier de l'Atlantique central, et accélérant la vitesse d'expansion des rides médio-océaniques, donne lieu à des gonflements de la dorsale, qui, repoussant l'eau, vous changez non plus le contenu, mais le contenant, repoussant l'eau, la faisait transgresser sur les marges continentales. D'accord. On a de gros soucis thermomécaniques avec cette solution, dans la mesure où, qui dit gonflement au milieu des océans, dit subsidence plus importante sur les bordures. Donc, a priori, les géophysiciens nous montrent que si on gonfle la ride au milieu de l'océan, on va au contraire soutirer sur les bordures, en particulier dans les zones de subduction. Donc, ce que l'on va gagner en volume d'un côté, on va le perdre de l'autre. Donc, le bilan est a priori difficilement déséquilibrable. Autre donnée, donc des recompilations récentes de Rowley en particulier, en 2002, ont montré, hein, en rétablissant la distribution des planchers océaniques en fonction de leur âge, en particulier en calculant la surface, hein, entre les anomalies magnétiques, ont montré qu'a priori, il n'y a pas de variation significative de la production de croûte océanique depuis 180 millions d'années. D'accord ? L'hypothèse d'un contrôle tectonique à grande longueur d'onde, ça reste statique, d'un contrôle tectonique sur le statisme est actuellement sérieusement remis en cause. Et on se réintéresse effectivement plutôt à des variations donc du cycle hydrologique au sens large, en particulier en examinant l'eau qui peut être stockée sous forme de glace dans les pergélisols ou l'eau qui peut être stockée sous forme libre dans les nappes phréatiques. D'accord? Et puis, à partir du Crétacé, on a des continents qui sont en position polaire. Donc, on peut, de manière temporaire, faire croître des calottes qui peuvent rendre compte des variations de quelques dizaines de mètres auxquelles on a affaire pendant ces périodes. La dernière possibilité et alternative qu'il existe, mais qui est difficile à analyser, est celle des variations donc des paramètres orbitaux de la Terre. Hein, vous savez, l'obliquité, l'excentricité, la précession. D'accord ? Parce qu'à chaque fois que vous allez modifier un de ces paramètres, donc le géoïde et la distribution donc des masses et le géoïde vont être modifiés. Donc, comme il y a un découplage entre la lithosphère et l'hydrosphère, on peut avoir des redistributions de l'hydrosphère avec, par exemple, de l'eau qui monte au niveau de l'équateur pendant qu'elle descend sur les régions de haute latitude. Donc là, il faudrait être capable de comparer et de corréler des coupes au même moment entre des secteurs dans les basses latitudes et des secteurs dans les hautes latitudes. Donc là, on va rapidement être confronté à un souci technique de corrélation biostratigraphique, par exemple, parce que dans les zones très boréales, de haute latitude, hein, les faunes et les provinces ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, on a un souci de corrélation, souci physique. Et puis, les successions paléomagnétiques ne sont pas suffisamment bien contraintes. D'accord ? Donc là, ça restera une hypothèse qui sera difficile à terme à tester. Alors, que reste-t-il de notre charte, après vous avoir dit tout ça ? Voilà. Donc, je reviens sur ce schéma. Du départ, hein, qui montre à juste titre, hein, qu'une séquence ponctuellement, un empilement sédimentaire séquentiel va d'une part se traduire par n'est que l'expression locale d'un corps sédimentaire général et reflète une variation du niveau marin relatif. D'accord ? Donc avant de passer de ce niveau marin relatif à un niveau marin absolu, il faut prouver que ces variations sont globales et synchrones. Ce sont vraiment les deux critères à suivre. Donc vous voyez la procédure, hein, c'est d'abord une analyse locale, régionale et ensuite globale. Et en changeant d'échelle, on va pouvoir identifier successivement les contraintes et les influences des paramètres flux sédimentaires, tectoniques et eustatiques sur l'enregistrement des séquences sédimentaires. Sachant que... Voilà. Alors, c'est là où on était allé, où Exxon était allé trop vite en besogne, hein, c'est-à-dire à partir des analyses 1D, avait transposé directement des variations du niveau relatif à des variations statiques. Pour revenir sur ce modèle... qui était quand même un sérieux coup avec OUP, dans la stratigraphie, les approches stratigraphiques, hein, puisqu'il proposait un modèle intégré. Bon, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il était relativement simple, a priori. C'est qu'il expliquait la disposition des corps sédimentaires, et puis qu'il était également prédictif et qu'il aidait à l'exploration pétrolière. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il a connu un tel succès et que chaque stratigraphe a pu remettre dans ce modèle les données qu'il avait localement ou régionalement. D'accord ? Bon, en regardant déjà d'un peu directement la transposition de ce modèle géométrique en modèle chronostratigraphique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un diagramme de Wheeler, W-H-2-I-L-E-R, d'accord, qui ne représente plus une coupe temps, une coupe géologique, pardon, mais qui représente une coupe temps, c'est-à-dire les lignes horizontales représentent des épisodes temporels successifs. D'accord. Donc là, il ne s'agit pas d'épaisseur, mais de j'ai un dépôt bleu pendant entre les lignes temps T1 et T2. D'accord. Donc on ne tient pas compte de l'épaisseur et de la vitesse de sédimentation, on fait simplement présence-absence. D'accord. Donc quand c'est rempli, j'ai un dépôt pendant cette période, quand il n'y a rien, j'ai pas de dépôt. Allez, quand il n'y a rien, soit j'ai enlevé, érodé, soit je n'ai pas déposé. Donc, j'engendre un hiatus d'émersion. D'accord. Ce qui vous rend compte des lacunes stratigraphiques. Donc vous voyez, ça représente effectivement le déplacement des dépôts au cours du temps. Là, les dépôts sont assez uniformes sur l'espace. Ici, ils sont pendant cette tranche de temps, ils sont localisés aux parties profondes. Puis là, ils remigrent dans les parties proximales. D'accord. Bon, vous voyez tout de suite que ce modèle, il suffit de faire un bilan de masse pour voir que ce modèle a un gros souci conceptuel. Hein. C'est que si vous considérez cette période, d'accord, là, la Terre s'est arrêtée de fonctionner, a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sédiments. D'accord. Donc, on a un souci d'équilibre et de bilan de masse. Donc fondamentalement, cette chose n'est pas correcte. D'accord. Puisque là, on devrait avoir beaucoup plus de dépôts pour compenser dans les parties profondes, pour compenser les hiatus dans les parties superficielles. Hein. En fait, c'est parce que la limite de séquence est mal placée. D'accord. Elle n'est pas à la base du prisme, mais normalement, elle est au sein du prisme. OK. Là, il y a eu un petit souci de conception. Bon, ça a eu une certaine importance dans la mesure où après, on a daté des surfaces ici, donc qui n'étaient pas correctement placées. Alors ensuite, donc j'ai mis un point d'interrogation. Qu'en reste-t-il ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, ça dépend. Voici une réponse qui ne va pas vous satisfaire. Ça dépend des moments. Parce que selon, effectivement, quand vous êtes en période glaciaire, effectivement, les variations sont suffisamment amples et synchrones pour que cette courbe ait une réelle valeur. D'accord ? Elle a bien été calée. Et en fait, effectivement, quel que soit l'endroit où vous la calez, elle sera correcte. D'accord ? En revanche, quand vous êtes dans les périodes greenhouse du Mésozoïque en France, par exemple, ici, on a deux gros soucis. Donc, un souci de dénombrement, hein, des cycles de troisième ordre, parce qu'à chaque fois qu'on étudie régionalement, on s'aperçoit qu'on a des séquences en plus ou en moins. Donc, y a un problème avec la charte, si c'était d'origine statique. Et puis, on a un autre souci, un deuxième souci, c'est l'amplitude, qui est ici, pour le Mésozoïque, qui est exagérée, ça c'est clair, hein, puisque les calculs ont montré qu'il ne s'agissait pas de chute de 80 ou de 100 mètres, mais plutôt de chute de l'ordre de 40-50 mètres d'amplitude. D'accord. Et le troisième souci, c'est la valeur absolue du niveau de la mer. Vous voyez que là-haut, a priori selon le modèle Texon, on est à 250-280 mètres au-dessus du niveau marin actuel. D'accord. Ce qu'il n'a jamais été dit, c'est que ces, Ces calculs ont été faits en ne tenant pas compte des remontées des bâtis, des boucliers et des socles sur lesquels ces transgressions étaient faites. Ainsi, si vous considérez si vous considérez l'altitude, par exemple au Sahara, allez là. Il est sur un site, hein, vous pouvez vous le. Là, je vous le donnerai. C'est pour ça que je vous le montre. Parce qu'au moins, vous partirez avec quelque chose que vous pouvez utiliser. Voilà, après, pour avoir une résolution plus forte, il faut être connecté au serveur qui recalcule les MNT. Donc, si on se replace à la limite cénomanien, turonien, dans le sud du Sahara algérien, dans le massif du Tineret. Effectivement, cette limite maintenant est à 250 mètres, enfin vous pouvez calculer le Z avec ça, est à 250 mètres d'altitude. Mais cette altitude est une altitude actuelle, sachant que toute l'Afrique, tout le bâti de l'Afrique est remonté et remonte depuis le Miocène. D'accord? Donc en fait, il faut procéder à toute la déconstruction et à tout la. Et à l'ablation en quelque sorte de tout ce mouvement positif pour recalculer de manière plus précise la valeur absolue du niveau marin au cénomanien turonien. D'accord? Et d'après les premiers essais sommaires, c'était plutôt plus 80 mètres par rapport à l'actuel que plutôt plus 250 mètres. D'accord? Donc on est quand même au point de vue bilan des masses d'eau engagées dans le stockage, déstockage sous forme de glace ou sous forme de vapeur et de nuages, on est quand même dans des bilans plus raisonnables. Hein, parce que plus de 150 mètres, ça impliquerait des difficultés. Donc j'en reviens. Voilà, donc pour résumer, donc pas de soucis, enfin pas de soucis majeurs pour les périodes glaciaires. Des soucis majeurs pour les périodes non glaciaires, des soucis concernant le nombre de séquences, les soucis concernant l'amplitude des variations statiques, et puis des soucis concernant le niveau absolu statique, hein, pour la charte d'Exxon. D'accord. Voilà, puis pour introduire le dernier, pour introduire les séances. À venir. Toujours dans la perspective de repasser de ce qui est observable localement à ce qui est généralisable à l'échelle globale, je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous montrer les difficultés que l'on peut avoir, enfin les enjeux qui sont derrière ceci. D'accord. On a vu que à travers la transgression cénomanien-turonien, le travail qui était fait sur la marge nord-américaine. Donc, ça implique des vitesses statiques de l'ordre de, on va dire, de 25 mètres par million d'années, des chutes, des vitesses de montée et de chute. D'accord? Si on réalise des calculs de vitesse alors des calculs de vitesse de vitesse de fonctionnement de faille normale, indépendamment en s'étant affranchi des variations statiques et des variations de flux sédimentaires, donc en ayant fait un une procédure inverse. Ici, c'est sur une faille Saint-Sédimentaire au liasse sur la bordure ardéchoise. Donc, ce qui est fourni ici, ce sont des vitesses de fonctionnement de faille normale en mètres par million d'années. Vous voyez que vous êtes, bon, alors il y a des épisodes, il y a des plus et des moins, mais qu'en moyenne, vous allez être dans 25-50 mètres par million d'années. D'accord? Donc, dans absolument le même ordre de grandeur. Okay. Et puis, troisième point, toujours dans des assises du Mésozoïque de la France, hein, pour se placer dans des contextes géodynamiques similaires. Cette fois-ci, quand on fait des calculs de bilan de masse, entre deux surfaces synchrones, on peut calculer, on a des épaisseurs, on a des teneurs, on peut calculer des bilans de masse et des quantités de matière, ici dans les plateformes carbonatées, par exemple. Donc vous voyez que les vitesses moyennées d'accumulation, hein, à l'échelle d'un bassin sédimentaire, d'un bassin du Sud-Est ou d'un bassin de Paris, vous voyez qu'on sait à nouveau, alors là aussi, il y a des faibles valeurs, il y a des plus fortes, mais que en moyenne, hein, on va se promener entre 20 et 60 mètres par million d'années. Donc, on va être encore dans le même ordre de grandeur. Hein. Donc, ça veut dire que pour l'essentiel des séquences sédimentaires enregistrées pour les périodes non glaciaires, la composante eustatique, la composante tectonique et la composante sédimentaire varient dans les mêmes ordres de grandeur. D'accord. Donc, selon l'endroit où vous êtes, selon le moment où vous êtes, l'une va prendre le pas sur les autres. Mais qu'à terme, la seule moyen de se sortir de ça, hein, de détecter avec fiabilité quel est le facteur principal, c'est de faire des modèles numériques et des expériences numériques de simulation. D'accord. Puisqu'on ne pourra pas faire longtemps avec les mains, puisqu'on est dans les mêmes ordres de grandeur, au moins pour ces périodes. Hein. Pour d'autres périodes, le statiste peut l'emporter, ou pour d'autres sites géodynamiques, la tectonique peut l'emporter si on a des vitesses, les vitesses d'érosion ou des vitesses de remontée qui sont de l'ordre de 1 mm par an, donc 1000 mètres par million d'années. Voilà. Donc je crois que pour la séance du 15 avril, vous interviendrez en particulier sur cet aspect, enfin les intervenantes. Considérons en particulier cet aspect, comment à partir d'un signal on peut techniquement reconstruire la part eustatique, tectonique, sédimentaire. D'accord. Je vous remercie de votre attention. Donc.